Y'a des hauts, des bas et des hauts. De drôles de débats et de la démago.
Bonjour à tous, c'est l'émission mensuelle Urgence.
Des coups de pression, des coups dans le dos, des coups de bluff et des rodéos.
Émission qui a pour vocation d'informer, de mobiliser, d'alerter, de débattre d'un sujet de société.
Y'a des rodéos. Et les cadres sociaux, y'a la France moyenne, de Brest à Cayenne, y'a les sans-papiers, les sans sous les sans, sur les sans pitié, y'a les femmes seules et les prisonniers, y'a les infirmières et les gars du chantier, y'a les ouf, les ouaves, les toqués, malvoyants, clairvoyants et les nains du clergé. Quand tout ça se passe ici bas, oui, y'a des hauts, des bas et des hauts, de drôles de débats et de la démago.
Comme chaque mois, nous sommes très heureux de vous retrouver. Et une fois de plus, nous allons traiter d'un sujet de société. Je pense que c'est le rôle de la Ligue des droits de l'homme, non pas d'apporter des solutions, mais de faire réfléchir. Réfléchissons ensemble à des sujets de société qui nous semblent fondamentaux.
Urgence, émission animée et proposée par la section de la Ligue des droits de l'homme Villefranche et les Casvilles.
Bonjour, c'est Urgence, l'émission mensuelle de la Ligue des droits de l'homme. Urgence pour les droits, urgence pour les libertés. Cette émission est également diffusée sur Radio Larzac. Ce mois-ci, nous abordons la question de l'économie sociale et solidaire. Alors, qu'est-ce qu'on entend par économie sociale et solidaire ? L'économie sociale, ou économie sociale et solidaire, regroupe un ensemble de coopératives, mutuelles, associations, syndicats et fondations. Celles-ci fonctionnent sur des principes d'égalité des personnes, le principe de « une personne, une voix », les principes de solidarité entre les membres et d'indépendance économique. L'économie sociale et solidaire, vous entendrez souvent le terme ESS, se rapporte à des activités visant à expérimenter de nouveaux modèles de fonctionnement de l'économie, tels que le commerce équitable ou l'insertion par l'activité économique. En 2012, le gouvernement actuel a reconnu l'importance de ce secteur d'activité, économie sociale et solidaire, en nommant pour la première fois un ministre chargé de ce secteur. Et on va même plus loin, un projet de loi cadre sur l'ESS sera soumis au Parlement en 2013. Alors, quel rapport avec la Ligue des droits de l'homme ? L'économie sociale et solidaire se fonde sur des valeurs qui rejoignent celles que nous promouvons et défendons. Par exemple, la primauté de l'homme sur le capital, le rejet de la financiarisation de l'économie, une finalité aux activités au service de la collectivité, c'est la notion d'intérêt général et d'utilité publique. C'est aussi une démarche collective. Gérer ensemble, animer ensemble, posséder ensemble et la recherche d'un nouveau mode de développement. Récemment, l'université rurale Quercy-Rouergue, URQR, dont le siège est à Villefranche-de-Rouergue, présentait ses formations au public. Elle avait choisi de mettre l'accent sur l'économie sociale et solidaire. C'est au cours de cette journée que nous avons posé des questions aux visiteurs pour notre micro-trottoir et que nous avons recueilli le point de vue de spécialistes dont Madame Bérénice Dondaine, présidente de l'ADPES, qu'elle vous présentera tout à l'heure, et de Roland Leigue, président de l'URQR et qui fut un acteur important de la coopération dans le domaine de l'agriculture. Et maintenant, place au micro-trottoir.
Pour vous, que veut dire l'économie sociale et solidaire?
C'est remettre l'homme au cœur de l'économie et non l'économie au cœur, quoi.
Toutes les structures, toutes les activités autour, tout ce qui est demandeur d'emploi, tout ce qui gravite autour des personnes en difficulté.
Alors pour moi, l'économie sociale et solidaire, c'est justement faire un travail qui soit en lien avec le respect de l'humanisme, le respect des normes sociales, le développement durable.
Pour moi, je le vois comme l'idée que l'homme réinvestisse le capital, enfin voilà, que l'aspect humain revienne dans le fonctionnement des entreprises. Pour moi, ça symbolise ça. En plus du fonctionnement, voilà, où il y a la place de l'humain qui est juste. Il y a également tout le champ de l'activité, enfin, qui doit être respectueux de l'environnement. Enfin, toujours cette idée d'être en harmonie avec son environnement, avec les gens qui nous entourent, etc.
Pour moi, l'économie sociale et solidaire, c'est une économie, je dirais, qui est soucieuse des partenaires et qui fait vivre le producteur et le salarié, je dirais, dignement.
C'est une action qui soit solidaire et qui soit sociale.
Ah, c'est une économie qui a une fonction autre que la fonction de recherche des profits, quoi, ou de la rentabilité. Donc c'est une économie mutuelle, partagée.
L'économie sociale et solidaire et le capitalisme sont-ils compatibles?
Non. Pour moi, non.
Pourquoi pas?
Je pense que oui, si dans le capitalisme, on n'oublie pas voilà, l'humain, quoi. Je pense que c'est possible, à condition qu'on respecte quelques principes et quelques valeurs. Que les gens pensent aux autres, que le chef d'entreprise, du coup, qu'il partage, qu'il pense aux petites mains, même au plus bas de l'échelle, que tout le monde soit reconnu à sa juste valeur dans la construction de l'entreprise.
Oui, la preuve, puisqu'il y a déjà un certain nombre de petites et moyennes entreprises qui produisent sur le local et dont les produits sont consommés en grande partie assez proches de ces exploitations et de ces entreprises. Donc je dirais oui, évidemment, c'est compatible. Alors évidemment, pas à grande échelle, puisque une économie sur un territoire se développe, je dirais, en fonction de ses moyens et de sa potentialité.
Moi, je crois que c'est compatible, effectivement. Mais pourquoi est-ce que ça peut être compatible? Parce que je pense qu'une structure qui soit dans la dynamique, justement, de l'économie sociale et solidaire a de toute façon besoin de dégager des profits pour pouvoir survivre. Et que de toute façon, qui dit dégager profit dit une forme de capitalisme. Après, c'est tout savoir ce qu'on fait des ressources qui sont développées d'une action sociale et solidaire et à quoi elles sont réinvesties, dans quel état d'esprit elles peuvent être utilisées.
Je pense que oui, parce que dans tous les cas, le capitalisme, ça, quand même, ça ramène des fonds pour le social, quoi. Parce que tout ce qui est les cotisations sociales sont quand même perçues grâce à des organismes privés, à des entreprises privées, qui, via leur cotisation, permet de financer cette économie sociale solidaire. Donc c'est pas du tout incompatible.
Pourquoi pas, vu qu'il y a une économie de marché, donc qui répond à des besoins de solvabilité ou création de richesses, et d'autres, l'économie qui répond à des besoins sociaux différents, qui n'ont pas de solvabilité peut-être, et qui ont pourtant une nécessité impérieuse.
Connaissez-vous des expériences relevant de l'économie sociale?
Les mutuelles, font partie de ce secteur. Tout ce qui est aussi le secteur de l'IAE, l'insertion par l'activité économique, donc les chantiers d'insertion, les associations intermédiaires.
Si j'ai bonne mémoire, ça a peut-être commencé sur un autre continent, en Amérique latine. Je pense au café, par rapport à Max Havelaar, qui a peut-être été le premier justement à faire travailler dignement les agriculteurs pour qu'ils puissent avoir un salaire convenable.
Alors je ne sais pas si on dit le sel ou la selle.
Le sel.
Le sel, c'est une charge. Voilà, après il y a tout ce qui peut être autour du développement durable dans les ressourceries, les recycleries, les centres de tri, les actions qui sont des actions d'insertion autour justement de l'insertion professionnelle avec une activité qui soit en lien avec l'activité sociale et économique du bassin d'emploi. Voilà, moi je connais que celle-là, mais bon, je pense qu'il en existe d'autres. Hein,
Alors les exemples qui me viennent en tête là, c'est surtout lié à l'actualité où on voit des entreprises qui font faillite, voilà, dans les journaux télévisés ça n'arrête pas, et puis finalement ce sont les salariés qui reprennent le flambeau.
Êtes-vous prêt à vous investir dans une démarche relevant de l'économie sociale et solidaire ?
Ben oui, je travaille dans une association, alors je suis en plein dedans.
Je suis déjà investie puisque je suis à la fois personnellement, bénévolement dans des associations, voilà, par exemple de consommation responsable, consommation locale, dans des associations d'éducation populaire également, et puis professionnellement aussi puisque je travaille dans une association d'éducation populaire.
Personnellement, je dirais indirectement, j'y participe parce que quand j'achète, alors je bois pas du café, mais dans ma famille, on en boit, du café ou du thé, et ben je j'achète pas systématiquement hein, des produits avec ce logo commerce équitable, hein, mais de temps en temps, j'y participe à ma façon.
De fait, la structure dans laquelle on travaille est un peu investie dans l'économie sociale et solidaire, puisqu'on est une structure associative loi 1901 et qu'on travaille beaucoup autour du développement durable, dans la notion du développement durable de la formation professionnelle et de la gestion des âges, et que notre activité professionnelle tourne autour aussi, même si ce n'est pas une ASS, d'une action qui peut être et qui est solidaire et sociale.
C'est Urgence, l'émission mensuelle de la Ligue des droits de l'homme. Guy Cabrit et Jean-Louis Tenaille échangent avec nos invités.
Bonjour et merci Madame Bérénice Dondaine, présidente de la DPS, d'être venue participer à notre émission. Nous avons fait ce micro-trottoir là, que vous venez un peu d'écouter, et je voulais d'abord vous demander qu'est-ce que c'est la DPS.
Alors ADPES, c'est l'agence de développement et de promotion de l'économie solidaire en Midi-Pyrénées. C'est une tête de réseau de l'économie solidaire, mais qui est composée principalement d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, d'entreprises évidemment, et de citoyens. Et nous tenons beaucoup à cette implication des citoyens dans notre organisation.
Et quel est le rôle alors ? Quel est le rôle de votre organisation ?
Alors nous, on se considère comme étant un centre de ressources vivant. Donc c'est vraiment notre approche. On a évidemment un site web qui s'appelle www.adpes.org et sur lequel on peut trouver beaucoup d'informations sur l'économie sociale et solidaire. On a une newsletter tous les mois électronique qu'on envoie à peu près à 3000 personnes, peut-être même un peu plus maintenant, voilà, et qui donne à la fois des actualités de l'économie solidaire en Midi-Pyrénées, mais aussi au niveau national et européen. Voilà. Et donc notre idée, c'est vraiment de faire que les acteurs nous donnent des informations à diffuser. Donc on est vraiment une sorte de plateforme d'information.
Et vous aidez les gens à s'installer dans l'économie ?
Alors on accueille, on oriente les porteurs de projets. Voilà, de manière gratuite, évidemment. On met en réseau ces porteurs de projets avec des entreprises qui ont des initiatives qui fonctionnent. Parce que souvent, un porteur de projet, il a besoin d'être entouré. D'être entouré par des pairs, c'est souvent mieux. Après, au-delà de ça, si la personne est prête, elle peut être orientée, et ça c'est notre travail, vers des structures d'accompagnement, des dispositifs d'accompagnement. Alors il y a des dispositifs d'accompagnement qui existent aujourd'hui au niveau de la région Midi-Pyrénées. Il y a un nouveau dispositif qui va permettre d'accompagner les structures d'économie solidaire. mais il existe aussi des dispositifs, par exemple sur Toulouse Métropole, il y a un dispositif un peu particulier qui s'appelle le dispositif adresse. Il y a aussi des structures d'accompagnement précises, là vous en avez deux, puisqu'il y a CapCop, autant que je sache, et Ozon, qui sont des coopératives d'activité et d'emploi. Il existe aussi des couveuses comme Etimone, la boutique de, BGE Sud-Ouest, qui sont des boutiques de gestion. Donc on a tout ce réseau qui peut permettre la création d'initiatives solidaires, mais de manière plus sécurisée. Et ça, c'est important. Et puis, bien évidemment, pour créer une entreprise solidaire, ben, parfois, il faut des fonds. Et là, intervient la finance solidaire. Et ça, la finance solidaire, c'est un outil très, très précieux, puisque il est précieux parce qu'il émane des gens. Je cite notamment Initiative pour une économie solidaire, née il y a 14 ans en même temps qu'ADPES. Ils ont démarré à 10, ils font du capital risque solidaire en fixant des critères de bonne gouvernance, utilité sociale, environnementale, etc. Aujourd'hui, ils sont 700. Et ils ont financé des centaines et des centaines d'emplois. Et ce type de finance est important. Et en plus, ça s'appuie, c'est souvent levier. Ça permet après de mobiliser des fonds de Midi-Pyrénées Actives, qui sont aussi de la finance solidaire, mais là, au niveau national, qui retombent sur Midi-Pyrénées. Ça permet de convaincre le banquier local que ben, le projet, finalement, il n'est pas si atypique, il est même très, très sympathique et il vaut la peine d'être accompagné au niveau bancaire. Enfin, voilà. Donc, notre métier à nous, c'est de permettre cet accompagnement-là.
Et le banquier, il est frileux par rapport à ces entreprises d'économie, puisque vous dites...
Oui, il peut être frileux, mais dans la mesure où il y aura un tour de table financier, il sera, plus facilement convaincu. Hein, dans la mesure où on lui aura prouvé par différents points de vue, expertise, mais aussi parce que le porteur de projet va expliquer son projet, que ce soit le porteur de projet, ça peut être un chantier d'insertion, ça peut être une entreprise d'insertion, ça peut être un café associatif, ça peut être quelqu'un qui veut travailler sur la méthanisation des déchets agricoles. Enfin, les projets sont très très variés.
Et à l'heure actuelle, ce qu'on en est au niveau des économies sociales, c'est-à-dire qu'on est, on est en développement, puisque il y a un petit moment que vous y êtes dedans, là, vous voyez que ça se développe, ou on est toujours sur une stagnation, ou au contraire, on avance un peu, les choses,
je suis convaincue que ça se développe. Je suis convaincue qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont intéressés. Soit à devenir membre actif de l'économie sociale et solidaire en tant que citoyen, hein, coopérateur ou bénévole, soit en tant que porteur de projet. Ça, j'en suis à peu près sûre. Je pense que les gens, même dans les entreprises conventionnelles aujourd'hui, se posent beaucoup de questions sur leur travail, leur activité, leur avenir, et que l'économie sociale et solidaire constitue vraiment une ouverture, en tout cas. Une ouverture pour un monde un petit peu différent. Donc je pense que c'est plutôt positif. Et il y a quand même un ministère. Voilà, ce n'est pas rien, monsieur.
Question, est-ce que le ministère fait que les gens prennent plus confiance ou ont plus envie d'aller de ce côté-là de l'économie sociale et solidaire?
Ah, je pense pas que ce soit dans ce sens-là que ça se travaille. Je pense que c'est un mouvement de société, l'économie sociale et solidaire. C'est, enfin, nous, la définition que nous donnons, au-delà du statut, hein, associatif, coopératif, etc., on pense même qu'il y a des SARL qui relèvent de l'économie solidaire, et notamment celle que finance IES. Mais, nous, on pense que c'est quand les acteurs prennent la main sur leur territoire, sur leur avenir, et qu'ils décident ensemble de créer, de s'organiser, d'échanger, de produire autrement. Voilà. Après, tant mieux si les autorités locales, régions, départements, communautés d'agglo et l'État, c'est-à-dire bien sûr M. Benoît Hamon aujourd'hui, qui est ministre de l'économie sociale et solidaire, structure, accompagne, appuie, tant mieux que nos impôts aient cette vocation, c'est plutôt rassurant. Mais je pense que ça, c'est une rencontre et que dans tous les cas, bien sûr, on espère que l'État va appuyer ces démarches-là plus fortement qu'il y a quelques années. Hein. Ça, c'est sûr.
Et alors, parmi nos questions du micro-trottoir, on avait posé cette question, l'économie sociale et solidaire et capitalisme sont-ils compatibles?
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Je pense que c'est peut-être pas le mot capitalisme qu'il faut... moi, je pense que l'économie sociale et solidaire propose un autre modèle de développement économique, c'est certain. Alors, cela dit, ça se fait pas du jour au lendemain, et néanmoins, nous sommes dans une économie de marché, quoi qu'on en dise. Donc, dans cette économie, il faut bien y trouver de quoi, en tout cas, y payer des salaires quand il y a des salaires et des emplois quand il y a des emplois. Donc, je dirais que si l'économie sociale et solidaire est l'ennemi de quelque chose, elle est l'ennemi d'une financiarisation à outrance du système économique. C'est plutôt de ça dont elle est l'ennemi. L'économie de marché, je ne sais pas s'il faut en être ennemi aujourd'hui. J'en sais rien. Je pense qu'il y a débat au sein du secteur de l'économie sociale et solidaire là-dessus. Nous, à DPS, on est plutôt à considérer qu'il faut relocaliser l'économie. Surtout ça, c'est un enjeu très très fort.
J'ai un exemple, un exemple, je crois, qui sont dans l'économie sociale solidaire. Je crois que c'est Chèque Déjeuner. Voilà, c'est ça. Hein. Et qui est vraiment, je crois, la plus importante de scope. C'est un chiffre d'affaires énorme et qui s'est développé. Et donc, ils sont effectivement dans l'économie marché. Ils ont dégagé des profits, mais ils sont toujours dans une éthique. Hein. Et donc, voilà, qu'est-ce que vous en pensez des projets comme ça ?
Je pense que c'est plutôt intéressant qu'on ait des grosses structures d'économie sociale. Je crois qu'aujourd'hui, en plus, elles se posent des questions, ces structures-là. Elles savent, elles sont toutes très conscientes. Je veux dire, il y a le groupe Chèque Déjeuner, mais vous pouvez aussi citer des grands groupes coopératifs dans le monde agricole et dans le monde bancaire. Donc, alors, tous ne sont pas au même niveau de questionnement. Hein, voilà. Mais en tout cas, nous, ce qu'on constate, c'est que ce sont parfois des partenaires possibles. Je pense par exemple à la Massif, à la Maïf, je pense au Crédit Coopératif, évidemment. Je pense à Chèque Déjeuner qui, quand même, aujourd'hui, essaie beaucoup de se rapprocher des petites structures d'économie sociale et solidaire. Donc, je dirais que c'est peut-être que on peut diagnostiquer des formes de déviance comme à chaque fois qu'on veut agrandir les choses. On a quelques banques qui nous en ont donné l'exemple, voilà, sans les citer. Mais ça ne veut pas dire qu'au sein même de ces organisations, il n'y a pas aujourd'hui des gens qui sont fer de lance pour un peu revenir à des valeurs et revenir à des principes. Donc tant mieux s'ils y reviennent, j'espère qu'ils le pourront. Et ce qu'on sait, c'est qu'ils sont aussi dans des enjeux dans des enjeux européens, de positionnement européen, où ils ont aussi peur de disparaître. Donc, ils ont besoin d'être que l'économie sociale, sous sa forme statutaire, soit reconnue au niveau européen, parce que on est dans une Europe très marchandisée et qui risque tout à fait de disparaître. Alors après, chacun son métier, voilà. Donc si on peut faire des alliances intéressantes et heureuses, tant mieux. Mais je dirais pas seulement qu'avec les grands groupes de l'économie sociale, moi je pense avec l'économie en général. Nous aujourd'hui on travaille sur un projet de développement des achats responsables avec plusieurs réseaux de l'insertion par l'activité économique. Le but, c'est de faire une grosse plateforme web où on présente les produits et services de l'économie sociale et solidaire, et puis qu'il y a un bloc acheteur. Ces acheteurs, ils vont être principalement professionnels. Ils vont être soit des collectivités locales, soit des entreprises. Et je dirais qu'avec des entreprises, hier, moi, j'étais à Airbus. Je ne sais pas si on va y arriver, mais je sais qu'on a pu rencontrer la personne responsable des achats. Alors évidemment, un responsable des achats avec 1400 salariés, on n'a pas l'habitude, hein, on ne sait pas faire. On va apprendre, je pense qu'il faut apprendre, parce que derrière, c'est quoi ? C'est sauvegarder, c'est permettre que les structures, les entreprises de l'économie sociale et solidaire aient des revenus corrects, de ce fait qu'elles offrent des bonnes conditions de travail à leurs salariés, donc qu'elles vivent d'une manière normale, hein, et non pas toujours dépendantes des pouvoirs publics. Donc il y a quand même des enjeux d'alliance, et je pense que c'est un enjeu, il n'y a pas simplement le flux d'affaires. Par l'achat responsable, on va dans une entreprise, on rencontre des gens qui peuvent devenir aussi des acteurs de l'économie sociale et solidaire.
Quand j'étais gosse, je rêvais de tout, de pouvoir voir de près la lune, de gambader un peu partout, de voir ce qui se cache derrière les dunes. J'ai même rêvé d'être agriculteur.
de vivre là-haut entre ces deux fleurs. Les yeux béants restés rivés sur les couleurs d'un arc-en-ciel. J'avais la bouche en forme de cœur, j'embrasse une vie au goût de miel. C'était un monde imaginaire. Je croyais même aux bons hommes verts et aux petits lutins. Un matin, un lutin m'a dit tout est possible, que tous les rêves du monde te seront accessibles. C'était la voix d'un sage qui ne veut que ton bien. Écoute son message et passe à ton voisin. Et passe à ton voisin. J'ai fait mon sac, mon baluchon, j'ai pris mes feutres et mes crayons. À chaque problème, sa solution. Je n'avais qu'une seule ambition, celle de chanter la vie des autres. J'ai fait ce choix d'être des vôtres et de penser les plaies des uns. Je n'attends plus ce bel apôtre. Et si le destin choisit le bien, je ferai ce que je pense et ce qu'il me plaît, en faisant vivre ce doux espoir. Quand d'autres exploitent le désespoir qui plane sur l'être humain. Un matin, un lutin m'a dit tout est possible, que tous les rêves du monde te seront accessibles. C'était la voix d'un sage qui ne veut que ton bien. Écoute son message et passe à ton voisin. Et passe à ton voisin. De tous les rêves que j'ai construits, que reste-t-il au fond de moi? Ces vieilles photos, ces lourds émois que j'ai classés par utopie. Si tu entends aussi cette voix, c'est qu'on est tous un peu comme toi. Le bel enfant s'est endormi dans le train-train de la petite vie. La belle Alice nous a menti sur les merveilles de son pays. À mes idées, je reste fidèle. Car après tout, la vie est belle, et on verra demain. Un matin, un lutin m'a dit tout est possible, que tous les rêves du monde te seront accessibles. C'était la voix d'un sage qui ne veut que ton bien. Écoute son message et passe à ton voisin. À ton voisin.
Qu'est-ce qui, grosso modo, quand même, fait encore au jour d'aujourd'hui un peu blocage sur le développement des coopératives, des SCOP, et sur le développement global de l'économie sociale et solidaire, même si elle progresse? On sait quand même qu'elle ne représente pas encore une énorme force mentale, morale, économique au niveau national. Quels sont les éléments de blocage un peu? Tout le monde dit ça m'intéresse, je serais prêt à y faire ou autre, mais ça n'arrive pas encore. Est-ce que vous avez quelques éléments d'appréciation là-dessus?
Alors, moi, je pense qu'il y a surtout un problème de culture générale, c'est-à-dire que quand même, on n'apprend pas du tout à coopérer à l'école. D'ailleurs, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de Midi-Pyrénées est très attachée à ce sujet-là, d'après ce que j'ai compris. Il faut, et j'entends au niveau national qu'on veut divulguer des savoirs et des connaissances dans les lycées, dans les universités sur la coopération. On apprend à être concurrent, on n'apprend pas à coopérer. Donc ça, c'est aussi une culture à avoir. On est un peu dans une culture de, entre guillemets, je vais employer un mot anglais, mais de fight, quoi, de bataille. Si on veut travailler sur le bien commun, il faut apprendre à gérer différemment, à décider différemment. Et ça, je pense que c'est un point de blocage. Il y a aussi le fait de peut-être qu'on a subi pendant quelques années une vision du chômage qui était très culpabilisante. Travailler sur l'exclusion, ça peut pas être uniquement de la réparation sociale, il faut le voir de manière beaucoup plus globale. Donc il faut aussi redonner de la citoyenneté aux gens. Donc ça, moi, je pense que c'est un frein, et qu'effectivement, tant que les entreprises penseront que parce qu'il y a des entreprises d'insertion ou chantiers d'insertion, ils s'occupent des pauvres, et puis voilà, c'est bien plus que ça. C'est, les chantiers d'insertion, ils ont un projet derrière citoyen. Hein, c'est, y a autre chose derrière. Donc il faut arriver à refaire du lien. Ne pas avoir un emploi, ce n'est pas un échec social. C'est un échec de la société et un échec économique de la société, pas de la personne. En général, très peu de la personne. Voilà. Et puis un autre point, c'est que les moyens qu'on affecte à l'économie aujourd'hui, conventionnels, sont disproportionnée par rapport à l'économie sociale et solidaire. Alors, je peux prendre un exemple précis. On travaille en ce moment avec le labo de l'ESS, qui est une sorte de, je peux dire ce mot, think tank, groupe de travail, de recherche.
L'ESS, c'est... Ah oui, le labo de l'ESS.
Le labo de l'ESS sous l'égide de Claude Alfandéry. Donc, on est dans une expérimentation nationale de pôles territoriaux de coopération économique qui sont nés suite aux états généraux de l'économie sociale et solidaire en 2010. Et l'idée, c'est de dire, oui, c'est bien, il y a des pôles de compétitivité, c'est très structurant pour les territoires, très bien. Mais ça serait bien qu'il y ait des pôles de coopération territorial PTCE, pôle territorial de coopération économique, pour rendre visible l'économie sociale et solidaire. En gros, on a besoin, par rapport au budget affecté au pôle de compétitivité, je crois que la proportion dont on aurait éventuellement besoin pour tout simplement pouvoir faire vivre ça, c'est à peine 1%. Si simplement on donnait 1% au pôle territorial de coopération économique pour pouvoir se réaliser, eh bien, je pense qu'on prouverait des choses. Donc il y a bien aussi des moyens structurels à donner. Nous sommes plusieurs à être aussi au niveau Midi-Pyrénées sur une structure qui s'appelle Novetat, qui fait de la recherche développement en économie sociale et solidaire. Là aussi, l'ARD pour les grands groupes, et je ne parle même pas des PME qui finalement y émargent très peu, la recherche-développement pour les grands groupes, elle est énorme, c'est des millions et des millions d'euros. Pour les PME, c'est pas beaucoup. Pour les petits commerces et artisans, alors là, j'en parle pas. Mais pour l'ESS, c'est très peu. Et je pense qu'il faut rééquilibrer cela. Si on veut que notre société soit plus inclusive, il faut lui permettre d'avoir de la recherche-développement. Il y a du lien à faire sur la question des services et des territoires. Aujourd'hui, la notion de service, entreprise de service ESS... Et les territoires. Donc là, il y a peut-être de la recherche à faire. Et aujourd'hui, il faut qu'on trouve les moyens de faire tout ça.
Donc, c'est une question de volonté politique, alors.
Bien sûr.
Oui, voilà. Et donc, quand même, avec ce nouveau, avec le fait qu'on ait un ministre, ça vous rend un peu optimiste
Moi, je suis très optimiste. Et puis, en plus, je pense que nos élus locaux, régionaux et locaux commencent à être de plus en plus sensibilisés aux questions de l'ESS. Donc, la région Midi-Pyrénées s'est investie sur Midi-Pyrénées Développement Solidaire. Elle a créé, avec France Active, elle a créé un autre outil qui s'appelle Midi-Pyrénées Développement Coopérative, qui, normalement, devrait permettre d'accompagner les démarches sous forme scope. Simplement, aujourd'hui, il faut aussi qu'il y ait beaucoup plus de projets qui émergent.
Il faut qu'il y ait des candidats.
Et on a peur de coopérer.
Oui.
Voilà.
C'est bien. Je vous remercie, Madame Bérénice Dondaine.
Et maintenant, le point de vue de Roland Laïgue.
Roland, tu as une grande expérience de la coopération, de la coopérative. Donc, tu as connu ça au début. Je voudrais te demander un peu ton avis sur l'évolution de la coopération. Voilà.
Eh bien, mon avis aujourd'hui, c'est que je suis tout à fait content et je suis satisfait de l'évolution que l'économie de marché crée, qui fait qu'aujourd'hui, il y a des limites au système capitaliste qui nous sautent aux yeux. Et que donc, heureusement que nous avons un grand acquis en matière de coopération dans le monde agricole, je cite le monde agricole, qui nous a conduit à des concentrations, certes, mais à quand même la construction de structures qui nous permettent aujourd'hui, qui nous permettent de trouver les débouchés de l'agriculture et maintenir l'emploi sur nos territoires, mais que par contre, peut-être, les temps actuels nous permettent aussi de pouvoir demander à ce qu'on remette en cause un peu la participation de l'acteur du terrain. Et moi, je suis extrêmement satisfait parce que j'ai vécu, moi, il y a, mettons, 10-15 ans à peu près, auquel dans le monde agricole, les gens comme moi, au niveau national, qui croyaient à la coopération, nous étions tirés à bout portant parce qu'on considérait que pour faire du profit, il fallait être dans ce système capitaliste à outrance, avec des capitaux qui venaient du monde entier. Et donc le monde agricole ne croyait plus à la coopération, et nous avons été quelques-uns, éclairés par je ne sais pas quoi, pour empêcher que ça réalise. Parce que quand, quelque part, à un moment donné, c'est un homme, une voix qui détient le pouvoir. Et que lorsqu'on peut le faire exercer, on garde quand même quelque part dans les mains la réalité. Donc moi je dis aujourd'hui, heureusement qu'on a fait de la coopération. Et aujourd'hui, cette coopération, il faut la renouveler. La renouveler dans son état d'esprit, la renouveler dans la vie de l'acteur. Et moi, je me réjouis qu'on mette en place quelques structures coopératives de circuits courts ou autres pour faire prendre conscience qu'effectivement, une grosse coopérative peut aussi trouver les moyens de faire vivre son projet au producteur qui est acteur. Et ça, il a fallu arriver à maintenant pour pouvoir l'exprimer. Je prends un exemple. J'ai tout autant milité pour les coopératives d'utilisation de matériel agricole, puisque j'ai été une des premières du département de l'Aveyron, créée dans mon village. Et j'ai été content quand le conseil régional, mettons, a accompagné financièrement les investissements coopératifs des coopératives. Mais j'ai été le premier à dire aux élus, vous devriez arrêter de financer l'achat de matériel collectif, financer plutôt la capacité à gérer ensemble et à posséder ensemble. Parce que c'est plus important à un moment donné que l'argent. Effectivement, je citerai quelques députés qui m'ont dit « Tu as raison, Roland, mais ça ne va pas satisfaire grand monde. » Et je me rends compte aujourd'hui, vous l'avez dit vous-même, aujourd'hui, nos écoles, on a fait les 50 ans de la coopération en Aveyron, j'y étais, on m'avait invité, j'en étais content. On ne nous a pas appris dans les écoles, y compris dans les écoles d'agriculture, j'en citerai aucune, on n'a pas appris à gérer ensemble, à animer ensemble, on n'a pas appris à partager ensemble. Au contraire, on a cru que c'était bon lorsqu'on était pauvre et que dès qu'on était riche, il fallait vite s'extraire de la coopération pour posséder seul. Mais ça, c'est l'échec du monde total, y compris du monde capitaliste, puisqu'à ce moment-là, il n'existe pas, il y a toujours un plus gros que soi. Donc quelque part, moi, le temps actuel qu'on vit, moi ça me fait plaisir, parce que je me dis, on peut en profiter pour pas rentrer dans un combat d'opposition, mais rentrer dans un combat, mais vraiment un combat territorial, de complémentarité et d'expression visuelle des choses, y compris vis-à-vis de nos groupes financiers. Parce que moi, ces derniers temps, je ne me suis pas privé pour exprimer que, tiens, tout d'un coup, on voit des publicités qui ont fait rappel aux coopératifs. Donc je me dis, là, on a exploité cette situation pour qu'on puisse reparler et refaire vivre. Et en même temps, ça nous donne des richesses astronomiques parce que, quelque part, on a tous quelque chose de ressources financières dans un pays riche comme la France. Et lorsqu'on les associe, mais ça donne un pouvoir énorme, pas en termes de volume, mais en termes de capacité à décider. Moi, j'ai côtoyé des grands groupes laitiers, des grands groupes laitiers capitalistes. À un moment donné, ils étaient plus forts que moi en capitaux propres, en ratio, mais pour mobiliser les producteurs, c'était encore moi qui avais plus de pouvoir, quoi. Et la preuve, on l'a montré. Donc, je me dis aujourd'hui, moi, je me réjouis, mais il faut mettre en garde, y compris le nouveau ministre, tout ça, et les pouvoirs publics. D'accord, il faut qu'ils aident, mais qu'ils fassent la formation. Il faut reformer les gens à la citoyenneté et à la gestion ensemble, à la gestion ensemble des choses. Et en même temps, aussi, savoir lâcher, savoir cette richesse créée pour le projet collectif. Parce que ça aussi, beaucoup de gens sont d'accord pour créer une richesse, mais lorsqu'il faut la céder, on demande une évaluation des actifs. Alors que quelque part, dans le système coopératif, ce qui permet la continuité de l'existence des outils, c'est l'abandon de la richesse acquise, quoi. C'est simplement la reconnaissance d'un capital social et d'être invité à l'Assemblée Générale si vous avez été sympa. Donc, quand, quelque part, je crois aussi qu'on a tout ce cheminement à faire faire aux gens. Hein. Parce que sinon, évidemment, on peut critiquer le système. Mais à mon avis, aujourd'hui, l'État nous donne excessivement raison.
Tu nous parles de combat, mais tu nous fais bien plaisir à la Ligue des droits de l'homme parce que nous sommes tout à fait dans cette voie-là.
Vous êtes en CFM, c'est Urgence, l'émission mensuelle de la Ligue des droits de l'homme. Place à Dominique Ladet pour son billet d'humeur.
Bonjour. Deux hommes de bien nous ont quittés le mois dernier à une semaine d'intervalle. Deux résistants, tous les deux internés, à des titres différents, tous les deux par les nazis, tous les deux ont été toute leur vie des combattants engagés pour les droits de l'homme, tous les deux, chacun à sa manière, ont été des témoins, se sont engagés dans la retransmission de ce qu'ils ont vécu auprès des jeunes, ou plutôt des plus jeunes générations. Leurs vies ont été différentes, l'un ambassadeur, l'autre enseignant, hussard de la République. Là encore, tous les deux ont engagé leur vie au service du bien commun, au service de la République. L'un d'eux est évidemment Stéphane Hessel. L'autre est notre camarade de la Ligue des droits de l'homme, que j'ose appeler mon ami Georges Galza. Communiqué de la Ligue des droits de l'homme, section de Villefranche-de-Rouergue. Georges Galza, l'engagement jusqu'au bout. Georges Galza, militant de longue date à la Ligue des droits de l'homme, vient de nous quitter à l'âge de 97 ans. Tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer ont pu apprécier chez lui la force de ses convictions républicaines, de son engagement de gauche, de son combat pour la laïcité et la dignité humaine. Lui, le rebelle, comme il se définissait, qui n'avait jamais baissé les bras et qui avait refusé de se soumettre dans les camps de prisonniers nazis, ne transigeait pas sur les valeurs humanistes. Notre société consumériste, où l'objectif premier est la course au profit, où l'humain passe souvent au second plan, suscitait chez lui de belles et saines colères. Malgré son grand âge et des ennuis de santé, sa vitalité, sa vivacité intellectuelle, sa capacité à analyser l'actualité, à témoigner du passé, à s'indigner, était resté intact et forçait l'admiration jusqu'au bout, il aura été actif. Le 14 juillet 2011, il exprimait vivement son amertume devant la faiblesse de la participation à la cérémonie devant le monument de la place de la Liberté à Villefranche. Le 5 décembre dernier, il envoyait à la section locale de la Ligue des droits de l'homme un texte qu'il avait rédigé au titre de « Devoir de mémoire », accompagné des mots suivants « Je souhaiterais que vous en discutiez et que vous puissiez le diffuser autour de vous. C'est un travail auquel je tiens particulièrement, car des mouvements nazis ou fascistes renaissent en Europe et dans le monde. Je vous souhaite bon travail et je vous adresse à tous avec mes regrets de ne pas être parmi vous mes plus fraternelles amitiés. » Son texte se terminait par une citation de Primo Levi. « Je pense que pour un homme laïque comme moi, l'essentiel est de comprendre et de faire comprendre. » En bon instituteur, hussard de la République, il était convaincu que toute transmission passe par l'intelligence et la connaissance. Comme il avait raison. À Raymond, son épouse, à Jean-Louis, son fils, et à Marlène, sa belle-fille, à ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, nous adressons nos amicales condoléances. Qu'il sache que Georges Galza est de ces forces personnalités que l'on n'oublie pas. Villefranche, le 24 février 2012. Tous les deux savaient s'indigner. Tout le monde connaît le livre écrit par Stéphane Hessel. Mais sur Villefranche, beaucoup connaissaient aussi les prises de parole d'un Georges Galza indigné, toujours prêt à prendre les armes de la parole, de la pédagogie, du contact humain et toujours du parler vrai pour débattre et tenter de convaincre de la justesse des causes qu'il défendait. Il n'y a que quelques années, quelques mois même, il était à nos côtés dans les manifestations pour dire la colère d'un peuple que l'on exploite et que l'on n'entend pas. Ce n'est pas pour nous un combat politicien, adossé à un parti. C'est un combat vital pour notre avenir commun et qui dépasse largement les intérêts des uns et des autres. Alors Georges nous a quitté cette terre, mais pour ceux qui restent, le combat continue. Et je voudrais que nous puissions ensemble partager des moments d'indignation, des moments d'humeur. Des occasions, nous en avons tous les jours. Certains diront qu'il ne sert à rien de s'indigner. Il faut s'engager dans une des composantes des forces, par exemple politiques, pour contribuer à changer le monde, à le faire évoluer. Sans doute. Ce genre de combat est nécessaire. Mais il est des moments où l'appartenance à ce genre d'organisation risque de modérer, voire de faire taire nos indignations. Et j'ai personnellement du mal avec ça. Je souhaite garder une parole libre, même si mon soutien est clair, je veux pouvoir dire différent ou différemment. C'est ainsi que mes indignations du jour rejoignent la politique avec un grand P. Nous ne vivons pas dans un univers où le débat, politique ou pas d'ailleurs, a une place évidente. Chacun cherche à ouvrir le débat, mais à sa façon, avec qui il a choisi, et en gardant la maîtrise de tout le débat. Ça, certains l'appellent de la démocratie, pas moi. Le ton outrancier de certains hommes politiques ne sert pas l'image de la classe politique et nous fait baigner dans un climat qui ressemble aux années 30, qui, faut-il le rappeler, ont vu la montée inexorable des idées d'extrême droite et enfin l'arrivée au pouvoir du fascisme en Europe. La position des instances internationales par rapport à la Syrie, devant la crainte des islamistes, à la fois perpétue les massacres et renforce donc le camp islamiste. Il y a un déséquilibre de plus en plus criant entre le nombre croissant de plus en plus pauvres et le nombre de plus en plus riches. La seule réponse de l'Europe pour aider les pays en grande difficulté est la rigueur. Et évidemment, les pauvres sont de plus en plus touchés. Dans notre pays dit développé, des femmes, des hommes et des enfants dorment encore dans la rue. Et dans ce que beaucoup refusent d'appeler des bidonvilles. On installe, même à Villefranche-de-Rouergue, des caméras pour enregistrer ce qui se passe dans l'espace public. C'est une grave atteinte au droit élémentaire d'aller et de venir, à la liberté de vivre sans contrôle excessif. Les interdictions, les sanctions, la répression continuent à prendre le pas sur la réflexion, l'éducation, l'échange, le débat et la démocratie. Je terminerai cette liste là-dessus, sinon nous pourrions y passer beaucoup de temps à énumérer mes indignations et les vôtres. Simplement, je voudrais rappeler ce qui devrait être l'essence de notre vie publique. La démocratie vient du grec ancien « demokratia », souveraineté du peuple, de démos, peuple, et de kratos, pouvoir, souveraineté. Rappelez aussi ce qui est inscrit au fronton de nos mairies, de nos bâtiments publics, liberté, égalité, fraternité. Pour cela, Georges Galzin et Stéphane Hessel ont lutté toute leur vie. Pour cela, le combat est quotidien, régulier et parfois rude. Rappelons-nous que ce sont des petites lâchetés, des « oh, c'est pas si grave » qui font reculer ces trois piliers de notre nation et se développer un sale esprit, fait de suspicion, de sentiments d'insécurité, de lutte pour le pouvoir ravi au peuple. Pour tout cela, restons debout en hommes libres.
Merci Dominique. Une nouvelle fois, nous avons pu apprécier la pertinence de ton regard sur l'actualité. On se retrouve le mois prochain. C'était Urgence, Urgence pour les droits, Urgence pour les libertés, l'émission mensuelle de la Ligue des droits de l'homme, émission diffusée chaque dernier samedi du mois sur CFM Villefranche. Vous pourrez réécouter cette émission sur le site cfmradio.fr. Excellente journée à tous et rendez-vous le mois prochain avec la Ligue des droits de l'homme, défendant au quotidien les droits, les libertés, la solidarité et refusant l'exclusion.
Est-ce que tu te souviens, quand j'étais millionnaire, je dépensais tout mon fric à tort et à travers. J'emmenais mes potes faire la fête toutes les nuits. C'est toujours moi qui payais champagne et whisky. Puis un moment, tout a dérapé. J'ai plus un pote, plus d'endroit où aller. Si je retrouve un jour un billet de 100 euros, je vais le garder, l'emballer dans du papier cadeau. Bienvenue dans ce monde parfait, où quand t'as plus un rond, personne te reconnaît. Avant j'étais une star, j'étais le roi du pétrole. Maintenant je vaux pas plus cher que ma vieille paire de grogues. Qu'un jour, je repartirai de zéro. Je retrouverai mes amis, mes potes, mes potos. Je les emmènerai faire la fête toutes les nuits. Et je repaierai pour eux champagne et whisky. Bienvenue dans ce monde parfait, où quand t'as plus un rond, personne te reconnaît. Avant j'étais une star, j'étais le roi du pétrole. Maintenant je vaux pas plus cher que ma vieille paire de grog. Bienvenue dans ce monde parfait, où quand t'as plus un rond, personne te reconnaît. Avant j'étais une star, j'étais le roi du pétrole. Maintenant je vaux pas plus cher.
Maintenant je vaux pas plus cher.
Maintenant je vaux pas plus cher. Maintenant je vaux pas plus cher que ma vieille paire de grolles. Oh oui.